Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Sur Aligre FM 93.1 en direct. Et donc, nous sommes mardi matin. C'est toujours le plaisir du direct. Et aujourd'hui, c'est une émission particulièrement émouvante. Nous allons rendre hommage à Pascal Blondeau, qui nous a malheureusement quittés, comme on dit, en novembre de l'année dernière. Et pour ce faire, nous avons trois invités, des témoignages qu'on nous a envoyés sous forme de fichiers son. Et nous allons téléphoner à deux, trois personnes. Mais pour commencer, je vais passer la parole à ce cher Paco Mtielman qui va nous parler de ce qui était Pascal.
Merci Yves, c'est assez intimidant pour moi de commencer cet hommage à Pascal. Pascal c'était un dessinateur, c'était aussi quelqu'un qui a écrit et qui a beaucoup fait de recherches sur la préhistoire, et en particulier quelque chose qui est très passionnant et dont il est la seule personne à ma connaissance à avoir cette lecture à la fois érudite et intuitive, artiste et en même temps extrêmement sourcée, qui est une sorte d'hypothèse sur les premiers alphabets et le langage des signes dans la préhistoire. Donc il avait cette hypothèse de la marelle des signes, sur lequel il essayait à partir de pierres taillé qui récupérait dans la forêt de Fontainebleau, essayer de retrouver ce qui pouvait être les premiers signes des hommes au moment où évidemment le dessin et l'écriture étaient communes. Il a fait des bandes dessinées depuis la fin des années 70, début des années 80, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il a commencé dans Harakiri. Il a dessiné aussi dans l'Idiot International, dans la Revue Dessinée. C'est dans la Revue Dessinée, ça s'appelle bien la Revue Dessinée, pas les Cahiers Dessinés, des fois je les confonds. C'est les Cahiers Dessinés. Ok, on va m'engueuler, déjà le nul qui commence. Où il a aussi écrit beaucoup de textes sur le langage de la préhistoire, texte particulièrement beau. Et il a aussi écrit un très grand texte qui est encore aujourd'hui inédit. Je crois qu'il y a quelques passages qui ont été publiés dans Mon Lapin Quotidien. Ça s'appelle Le Vaisseau de la Nuit. Et j'espère qu'il trouvera un éditeur prochainement, parce que c'est un grand texte qui évoquait aussi les rapports avec son père. Alors on ne l'a pas dit dès le début, mais ceux qui connaissent Pascal le savent, c'était le fils du dessinateur GB. Et une des grandes forces de Pascal, c'est d'avoir développé un univers qui n'est pas du tout un univers commun avec son père. C'est un autre artiste que GB. Et ça n'enlève évidemment rien au génie qui était GB, d'avoir eu comme fils un génie qui était Pascal et qui était un génie d'un tout autre genre.
Et donc pour les jeunes générations, GB était dessinateur à Harakiri et dessinateur au Charlie historique, celui d'avant Philippe Val. Donc dans les temps anciens, et il a fait un film qui était très fameux, qui s'appelle L'An 01, donc c'était un père quand même qui prenait beaucoup de place dans l'univers dans lequel Pascal a grandi, et donc Pascal avait effectivement une esthétique tout à fait autre, avec des oiseaux, des petites fleurs, des gazouillis, quelque chose qui était dans un autre registre.
Il y a un univers un peu totémique, aussi chamanique.
Absolument, oui. Oui, bon, et donc, quoi d'autre? Tu veux qu'on passe la parole à Alex?
Oui, je pense que c'est bien que d'autres personnes... Il y en a beaucoup de gens qui doivent passer, donc voilà.
Parle-nous de Pascal, s'il te plaît, Alex. Salut.
Salut. Oui. J'ai déjà été présenté. Donc.
Alex Deveau, grand historien du dessin, qui a fait une exposition Roland Topor absolument extraordinaire à la Bibliothèque nationale. grand ami de Pascal et qui est en train d'écrire un livre sur GB.
Oui, enfin, surtout maintenant je suis entré à la Bibliothèque nationale comme chargé de collection des dessins de presse. Et par l'entremise d'Elsa, la nièce de Pascal, j'ai pu rencontrer Pascal et GB quand j'étais adolescent, lycéen. Et Pascal était le tuteur d'Elsa, qui était ma compagne.
Oui, donc
Elsa avait perdu ses parents. Et Pascal, qui était le frère de la mère d'Elsa, est devenu son tuteur. Et donc, les premières fois que j'ai eu affaire à Pascal, c'était au téléphone pour des histoires d'autorisation. Et Fabienne aussi, d'ailleurs, des histoires d'autorisation de ce que Elsa peut dormir à la maison ou des choses comme ça, quoi. Et puis, petit à petit, je suis après entré à l'université pour faire de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Et là, avec Pascal, c'est vraiment là qu'on a entamé des discussions plus personnelles et sympathiques sur l'archéologie. Puisque lui, il était, c'était un poète. Il abordait l'archéologie en poète, mais en s'intéressant aussi aux textes scientifiques. Et donc, ça l'intéressait beaucoup de récupérer mes polycopiés pour les bibliographies et pour se mettre à jour des techniques de taille des pierres, notamment. Et puis, on a entamé comme ça un échange au long cours et puis sur tout un tas de sujets. Après, là, j'entendais que vous disiez que Pascal avait développé un univers bien différent de celui de GB. Alors, c'est vrai qu'esthétiquement, il est bien différent, mais moi, je trouve qu'il y a quand même des relations entre ces deux univers. Il y a une poésie, évidemment, c'est pas la même génération, c'est pas exactement les mêmes problématiques, ils n'avaient pas la même psyché, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent chez l'un et chez l'autre. Dans la dimension contemplative des choses, des êtres. Après, ils avaient des sensibilités très différentes, mais avec quand même des points communs, quoi. Et quand on les voyait ensemble, il y avait, des deux, je trouve, émanait une douceur. Et puis ils avaient des petits yeux bleus perçants tous les deux, une grande bouche tous les deux, et avec un sourire assez terrible, beau. Et voilà, donc je trouve qu'il y avait quand même des points communs entre les deux.
Si tu le dis, je te crois, oui. Et donc, mais au niveau esthétique, leurs esthétiques sont quand même... Enfin, on n'est pas dans la même génération.
Non, la vieille école d'Arakiri, ils étaient anti-joint, par exemple. Ouais. Mais par contre, franchement, pro-alcool, pour la plupart. Et donc, les délires de la conscience qu'on se fait sous l'effet de l'alcool ne sont pas les mêmes, ou sous l'effet du café et de la cigarette ne sont pas les... Puisque il paraît que c'est aussi des psychotropes, le café et la cigarette, ne sont pas les mêmes que ceux qu'on se fait sous joint. Et sous LSD, etc. Et Pascal, quand il était jeune, a expérimenté ces psychotropes. Et donc, il en est resté quelque chose, quoi. Et donc, il y a probablement, dans son esthétique, aussi quelque chose qu'on retrouve chez d'autres artistes qui ont pu prendre des psychotropes, ou quand c'est pas l'esthétique, ça peut être sur une façon de voir les choses, ou...
Tu penserais à Crump, par exemple. Un fleuve dessiné par Crump avec des yeux dedans, et on retrouverait quelque chose de Pascal.
Alors, je penserais plus à Olivia Clavel qu'à Crump.
Ouais. Bazooka.
Oui, mais à une vision très psychologisée des choses, quoi, disons, sans l'analyse. Mais comme si c'était une restitution de l'inconscient éveillé, je ne sais pas exactement, ou du subconscient. Je ne sais pas comment décrire cette zone qui s'exprime dans le dessin de Pascal, mais on est entre deux, quoi. Mais ça parle à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi, mais alors, ça se comprend très bien en tout cas.
Sur le côté générationnel, je n'ai jamais entendu Pascal élever la voix. Et je ne peux pas imaginer les gens d'Arakiri sans penser à la violence des rapports humains. Évidemment, je pense à Choron, tu vois, mais au quotidien, donc, hein, dans les fins de soirée, les choses où on déborde, tout ça, Et pour moi, Pascal, c'est quelque chose de rond, tu vois, mais ça peut se discuter.
C'est bien ce que tu soulèves. C'est aussi une histoire de génération. Charlie, on est chez les mâles alpha, je dirais. Pascal, c'est une autre génération. Et il avait en plus ce goût de la poésie et cette façon très très douce de pouvoir s'exprimer, que ce soit par le dessin ou même dans son expression directe avec les gens. Donc effectivement, on est dans des mondes totalement différents. Et je vais reprendre ce que disait Alex par rapport à l'usage de drogue et de psychotropes. C'est vrai qu'à Charlie, bon, on était sur... c'est des gens qui étaient sur l'alcool principalement et les cigarettes. Mais nous, on fait partie d'une autre génération, celle des années 70. Enfin, des années 70, avec tout ce que ça comporte comme culture qu'on avait totalement intégrée. Donc, il y avait un côté peace and love qui peut faire rire maintenant, mais qui, à l'époque, était important. Et que Pascal avait totalement intégré, en tous les cas. C'est ce qui explique aussi son côté totalement pacifique. Et cette ouverture aussi d'esprit qui était due, comme tous les gens qui ont consommé des psychotropes. Alors, je m'y connais un petit peu plus parce que j'ai médité sur cette question. Mais certains psychotropes, effectivement, apportent une ouverture d'esprit. Par exemple, le LSD, l'acide, même les champignons hallucinogènes. Et contrairement à d'autres drogues comme les clopes, le café, l'alcool ou même l'héro, on ne peut pas parler d'ouverture d'esprit similaire, c'est complètement différent. Et il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, ils s'appellent Les portes de la perception, entre autres. Et donc c'est vrai que cette ouverture d'esprit, il l'avait aussi complètement utilisée par rapport à sa recherche au niveau du dessin. Et c'est pour ça que je pense qu'on y retrouvait énormément de poésie. Alors dire qu'il était totalement peaceful, c'est pas tout à fait vrai non plus. mais en tous les cas, ça se retrouvait dans son dessin. Voilà.
Mais il existait, il était là, il était tout à fait présent quand il était là. Il avait sa personnalité. Je pense pas du tout qu'il était mièvre
ou
il avait une pensée tranchante.
Oui, voilà,
oui.
Très critique.
Il disait les choses avec délicatesse. Pour moi, en tout cas, quand on discutait ensemble, il me disait les choses doucement parce que on n'éprouvait pas le besoin de se crier dessus. Mais par contre, quand il n'était pas d'accord, il le faisait savoir de façon très très nette et il laissait rien passer.
Non, c'est vrai, ouais. Il ne s'est rien passé. J'en sais quelque chose, effectivement.
Puis donc, j'étais à sa conférence à la Halle Saint-Pierre sur la préhistoire, là, et malheureusement, j'ai fait une intervention, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai dit, mais c'est embêtant, la mémoire. J'aimerais pouvoir me reprojeter cette conférence. Mais il était remarquablement à l'aise, il était bien, il assurait complètement, il était dans son sujet. Il faut pas le voir comme un baba gâteux, effectivement.
C'était... Non, mais quand je dis baba cool, c'est pas forcément baba gâteux. Hein. Ouais. C'est juste sur le côté, comme ça, culturel de l'époque, et avec tout ce que ça pouvait apporter comme façon d'être ou d'être avec les gens et les autres en général. Voilà. Après, son sujet sur la préhistoire, oui, il le maîtrisait, mais comme dit Alex, il a énormément bossé. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, enfin qui s'était arrêté à la cinquième, je crois, c'est ça, et qui, pour s'intéresser à la préhistoire, s'est remis à potasser et à lire énormément de bouquins. Et ça a été un travail assez titanesque. Hein.
Si tu veux, on pourrait écouter un des documents sonores qu'on a reçus, un témoignage d'une galliériste qui s'appelle Corinne Bonnet.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je pense beaucoup à Pascal. Pascal n'est pas mort. J'ai lu quelque part un jour, dans un très beau livre, que les gens ne mouraient que le jour où on les oubliait et que tant que nous gardions la mémoire de qui ils étaient, ils ne mouraient pas. Et donc je pense beaucoup à Pascal. J'ai connu Pascal de manière fulgurante, pas très longtemps, quelques années ou plus. À l'époque, il est venu à la galerie voir des expositions et on a progressivement fait connaissance et fait des choses, en particulier le lancement de je ne sais plus, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 ou 7, je ne sais plus. Rien ne se perd, qu'il voulait qu'il finalisait, qu'il voulait lancer. On a travaillé avec toute la délicatesse dont nous étions capables, et l'un et l'autre, dans une tranquillité absolue, jamais de stress, jamais de pression, jamais de méfiance. Toujours une espèce de, oui, je dirais, profonde tranquillité, profonde élégance, profonde délicatesse dans nos relations. J'ai découvert son travail de dessinateur ou d'artiste. Je pense que dessinateur n'est pas suffisant pour qualifier son travail. J'ai découvert ses livres. J'ai découvert son intérêt pour la préhistoire, la façon dont il a raconté merveilleusement l'alphabet de cette préhistoire à Fontainebleau, telle qu'il l'a pratiquée. Tout ça reste profondément gravé en moi comme une forme de talisman, une forme de rencontre extrêmement rare. Et ensuite, pendant le confinement d'ailleurs, parce que j'étais moi aussi enfermée, autant que lui, on s'est appelé plusieurs fois et on a eu des conversations très douces, là encore, et en même temps très puissantes et sans concession d'ailleurs, sur en particulier les oiseaux, la faune, la flore, la destruction du monde, le sentiment d'immense colère qui m'animait, de totale impuissance face à tout ce qui est à l'œuvre pour détruire. Et au fond, il m'a enseigné des choses extrêmement simples. J'ignorais que tous les chiens descendaient du loup, par exemple. Voilà, il me disait ces choses-là très tranquillement, sans se la ramener à partir d'un savoir qu'il aurait eu et que je n'aurais pas eu moi. On a beaucoup parlé des oiseaux, on a beaucoup parlé de la faune, de la flore. Et puis après, on n'a plus parlé, en fait. Et on pouvait avoir des conversations téléphoniques très espacées, mais toujours joyeuses. Il y avait toujours une forme de joie profonde. Voilà, c'est un être que je garde dans ma mémoire et dans mon cœur.
Aligre FM, Aligre FM, FM 93.1.
Ben, merci pour ce témoignage de Corinne Bonnet, effectivement, qui nous amène l'existence des oiseaux, le rapport de Pascal à la nature. Et c'est bien ce que Alex ou Fabienne, vous voulez nous dire où il habitait et comment c'était son cadre de vie.
Tu étais allé, toi, Placide, chez Pascal ?
Chez Pascal, oui, dans son dernier... le dernier endroit où il a vécu, parce qu'auparavant, je suis allé aussi chez Pascal lorsqu'il habitait dans le jardin, là, entre guillemets. Mais enfin, il a vécu des années au cœur de la forêt, enfin, dans la forêt de Fontainebleau, dans sa cabane en bois. Oui, j'y suis allé, oui.
Mais ce serait intéressant d'avoir justement l'œil du dessinateur se représentant cette maison.
Oh bah, je voulais la décrire. Je suis pas forcément très bon en description par oral d'une maison. En tout cas, comme lieu de vie, ça devait être super. Et ça collait avec le personnage Pascal. Mais donc vous faisiez l'historique un petit peu de votre rencontre avec Pascal, les uns et les autres. Moi-même, j'ai connu Pascal d'abord par son œuvre qui était des bribes de des pages, quelques pages qui paraissaient dans Harakiri, pas forcément dans tous les numéros, à la fin des années 70. J'étais, moi, en tant que jeune homme amateur de dessin, j'étais surpris encore une découverte poétique parmi les pages d'Harakiri qui en regorgeait mois après mois. C'est donc Harakiri, là vous décriviez ça comme un journal fait par une génération de gens près années 70, donc qui carburait plutôt à l'alcool et tout ça. Bon, ok, c'est d'accord, mais c'était un journal et un groupe de presse qui était accueillant à toutes les nouveautés qui arrivaient, y compris aux générations psychédéliques ou autres fumeurs de joint, genre Pierre Guiton, etc., qui étaient vraiment des grands noms.
C'était surtout Volinsky aussi, finalement.
Ah ben Volinsky a été, Volinsky, tout comme GB, a été rédacteur en chef de journaux du groupe et a accueilli des gens comme ça. Mais J'ai
l'impression que le découvreur c'était plutôt Valensky, mais.
Ah bah moi j'ai l'impression que c'est. Alors, c'est GB était aussi un était aussi un énorme découvreur. Delphel de Ton a été la chef de Charlie Mansell au début, ensuite etc. Mais même.
Et Cavana.
Amy Cavana qui avait quand même des partis pris, qui était un petit peu rétif à des choses qui le bousculaient comme Bazooka et tout ça, mais enfin non mais c'est dingue que j'ai accueilli les gens de Bazooka dans les pages de Harakiri. Mais donc, pour en revenir à Pascal, justement, c'était un petit peu contemporain les interventions de Bazooka dans Harakiri sont contemporaines des premières pages de Pascal publiées dans Harakiri. Et pour moi, il y a une famille. Il est aussi de la famille Bazooka qui était déjà dans cette famille, disons punk, qui était un petit peu à se moquer de certains ridicules de la génération Babacool précédente, etc. Donc du coup il y a un mélange de cela. Néanmoins, en effet, vous avez défini sa culture comme étant plutôt dans cette culture du peace and love, je sais pas quoi, enfin tu vois, globalement, mais enfin bon, bref, c'est sûr qu'au niveau si on parle du style graphique aussi, déjà on fait la différenciation, en effet c'est différent de son père au niveau du style graphique. Son père c'était un être issu du dessin industriel, façon dessin des lignes de chemin de fer etc. Enfin, je veux dire, il est passé par l'emploi à la SNCF, et puis ça se ressent dans sa manière de faire. Moi, je ne sais pas, c'était un autre. J'entends un bruit.
Non, c'est bon, c'est bon, okay. T'inquiète pas. On essaie de gérer le téléphone en même temps.
Ok, alors voilà, il y avait. Ok, un téléphone. Le téléphone sonne comme dans l'émission de radio, bien connu là. Hop, enfin voilà, le trait droit de GB, et puis le trait arrondi, toujours de son fils, fait une différence. Et après dans ce qu'il raconte, il y a pas mal de différences. Mais en effet, Alexandre faisait souligner qu'ils étaient physiquement très proches. Mais alors donc, pour en revenir à ce que vous me demandiez, Ah oui, ça m'est. Sa maison, Alexandre me demandait sa maison. Comment était sa maison? Une cabane, principalement. Enfin, une cabane, non, mais une maisonnette. Comme moi-même, j'habite une maisonnette, c'est un petit peu similaire. Mais lui, c'est vraiment au milieu de la forêt, avec une espèce de balcon en bois où il était dangereux de se promener pour ne pas tomber à travers les planches de bois, choses comme ça. Après, il fallait qu'il assure pour faire face à l'hiver au milieu de tout ça. Et puis, donc, justement, il était en relation directe avec les aimants de la nature, de la forêt, donc à végétaux et animaux surtout, qui pouvaient intégrer sa maison. Alors il a été ami avec des corbeaux, il a été ami avec des pigeons, il en a rescapé, sauvé certains, il a été ami et accueillant vis-à-vis des différents rongeurs. Malheureusement, comme il a été aussi ami avec des chats, en présence des chats, les rongeurs avaient du mal à survivre. Enfin, il y a eu les périodes sans chats où il y avait les Loire et tout ça, puis les périodes avec chats où les Loires étaient un petit peu pourchassées, mais enfin, sinon il a rescapé des pigeons ou corbeaux blessés. C'est drôle parce qu'il y a quand même des amitiés entre animaux qu'il m'a raconté. Il avait un pigeon blessé qu'il soignait, puis qui était menacé par je ne sais plus un chien de passage, et que le chat de la maison de Pascal ont fait écoute pour le pigeon et ont foncé sur le chien pour le défendre au péril de leur vie, enfin de leur intégrité physique. Oh ouais, des choses comme ça. Et puis donc, le rapport qu'il avait intime avec les animaux, oui, en effet, il a eu un corbeau qui a été son ami pendant pas mal d'années, qu'il a rescapé et qui est devenu son compagnon, qu'il a baptisé Grendel. Il en a fait un petit livret avec des photographies de Grendel. Et c'est drôle, il avait, par exemple, avec les appareils photo numériques d'aujourd'hui, il prenait Grendel en photo de temps en temps. Il m'a raconté cette anecdote comme quoi un jour il avait pris trois clichés de Grendel, clic, 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 et puis il lui a montré ensuite sur l'écran un Grendel qui regardait. Puis comme il lui a montré que deux clichés, Grendel avait bien compris qu'il y en avait eu trois et a tapoté pour faire comprendre qu'il voulait voir la troisième. Enfin, non, ce genre de choses. De toute façon, pour lui, c'était une évidence. Il arrivait à expliquer l'intelligence animale, enfin la manière dont l'animal connaît beaucoup de choses et sait beaucoup de choses. Voilà.
Là, ça me fait penser. Alors, il avait effectivement, pour moi et pour nous, j'imagine tous, une grande intelligence
sensible, intuitive, notamment avec les animaux, avec certains êtres humains aussi, et aussi avec les pierres. Et ce qu'on dit qu'il vivait dans un cadre naturel, donc il y avait effectivement les animaux, les arbres, la nature, etc. Et les pierres, parce qu'à Fontainebleau, il y a énormément de pierres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait choisi cette maison. Parce que c'est un territoire qu'il connaissait depuis son enfance et qu'il espérait un jour occuper, ou en tout cas s'y installer. Et puis l'opportunité était arrivée, un jour une maison était en vente au milieu de la forêt de Fontainebleau, pof, il a sauté sur cette occasion. Et dans cet ordre de choses, comme l'histoire avec le corbeau, je me souviens de... Alors, il glanait des pierres gravées sur ce territoire de la forêt de Fontainebleau. Et je me souviens qu'il avait aussi, reconstitué des lampes à huile, comme celles qui pouvaient être utilisées dans certains abris ornés au moment de la préhistoire. Et puis, un soir, une de ces lumières, alors là, pour le coup, électrique, était restée allumée. Et puis, une pierre gravée qu'il avait posée sur sa cheminée était éclairée en lumière rasante par cette lumière électrique qui s'apprêtait à aller éteindre. Et là, en lumière rasante, il voit une forme apparaître sur la pierre qu'il n'avait pas vue de face en lumière naturelle. Et à cet instant, il se rend compte qu'une même pierre gravée peut avoir deux images. Et en jouant après avec cette lampe à huile et les lueurs de la flamme, il s'est rendu compte que l'image d'une pierre pouvait être animée. En fait, que, un peu comme les cartes postales où quand on les bouge, on voit deux images sur ces pierres gravées. En faisant bouger la flamme, on peut voir une image gravée, enfin un dessin gravé, puis un autre. Donc ça fait...
Merci Alec, mais on a quelqu'un au téléphone, Alain Boulay. À vous, monsieur Alain.
Bonjour. Alors, je vais vous parler de Pascal, que moi j'ai connu très jeune, ado, pratiquement ado. Avec des amis, on avait constitué un atelier d'art populaire, pas loin de Fontainebleau, à Moisenay, à côté de Vaux-le-Vicomte. Et on exposait des dessins, des sculptures. C'était un lieu aussi de concert. C'était un lieu qui a été ouvert après 68, dans la folie de 68. Et on exposait des jeunes qui ne pouvaient pas exposer dans des galeries. Et donc on a exposé des sculptures, des poteries, des terres de Pascal. C'était son père, le dessinateur Gébé, qui l'avait amené les week-ends, et on avait exposé ses travaux qui étaient très, très originaux. Et en fait, il y a un petit gag, c'est qu'en fait, on mettait à chaque exposant, évidemment, le nom sur une étiquette assez gras, et c'était aussi le lieu d'exposition, c'était aussi la salle de concert. Si bien que quand on prenait des photos de personnes qui venaient chanter en gros plan, il y avait toujours le nom de Pascal Blondeau derrière. Alors c'est comme ça qu'il y en a qui ont fait des photos où sont venus chanter Hubert Félix Thiéphaine ou Yves Duteil, il y avait toujours marqué Pascal Blondeau. On avait toujours l'impression que c'était Pascal Blondeau qui venait chanter. Donc c'était un gars formidable que j'ai retrouvé bien après, en 91, je l'ai retrouvé sur des lieux d'exposition. Il avait fait une exposition d'ailleurs en Suisse. Alors là, c'était du graphisme tel qu'on le connaît, avec des histoires à suivre, éventuellement comme un peu une BD. C'était un univers tout à fait surréaliste, un peu fou, un peu Chaval, un peu Fred, et puis un peu des BD aussi. Et j'ai retrouvé ses dessins, et je lui ai proposé de venir faire une exposition à Pontaut-Combault, en Seine-et-Marne d'ailleurs aussi. Et il s'est investi considérablement pour exposer des dessins, des sculptures. Et en 94, il a fait une gigantesque exposition à Porto-Combo. Alors les sculptures, il avait abandonné un peu la terre et il avait travaillé un univers un peu onirique avec des pelles, des boîtes à fromage, des tas de têtes en peignant des yeux, une bouche sur des pelles, un peu à façon art brut, un peu chez Sac aussi. Mais il en avait des tonnes, et des boîtes à camembert transformées en têtes, il y en avait plein partout. C'est extraordinaire. Il avait aussi, en même temps, parallèlement, commencé des BD dans des revues un peu marginales, Good Boy ou Cult, avec des suites très originales, avec parfois des héros. Il y avait des héros, héroïnes d'ailleurs, Eurydice par exemple, une souris qui parlait. Avec d'ailleurs dans un monde où tout le monde parlait, les arbres parlaient, les rochers parlaient. Et j'étais très très séduit par sa poésie, dans son graphisme particulier. C'est un monde de merveilleux, hein, de merveilles, qu'on a connu. Il a exposé longtemps. Un inventeur d'images, d'histoire. Voilà comment j'ai connu Pascal. On était amis. On s'était pas revus après le Covid, d'ailleurs, non.
Merci de votre témoignage et à bientôt.
Oui, merci.
Aligre FM 93.1.
C'est intéressant ce qui vient d'être rappelé avec cet univers où tout parlait. Et donc, je me vois obligé de corriger ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais qu'il n'y avait aucun rapport entre GB et Pascal en termes d'univers, et que vous me corrigiez à juste titre, dont toi, Alex. En fait, oui, parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a cette bande dessinée extraordinaire de GB à la mort de Reiser, où il dit maintenant Reiser est partout, Reiser est dans les arbres. Et on le voit taper un arbre, et il y a l'arbre qui fait aïe. Alors, c'est vrai que là, cette bande dessinée, elle est pré-pascalienne. Ce moment de GB annonce Pascal.
Voilà. Et Pascal avait commencé à... Le décès de Reiser, c'est 83. Ouais. Donc, oui. Pascal,
enfin,
déjà.
Il a commencé avant.
Mais en effet, c'est pascalien. De toute façon, c'est pré-pascalien, si on veut. Mais enfin, voilà, c'est en effet. Oui, alors, que les objets inanimés aient une âme. Bon, il y a ça dans GB depuis, même avant. Et puis dans Pascal, bien sûr, ouais.
J'ai juste une petite anecdote rapide. Quand il a apporté ses premiers dessins à Charlie, en fait, c'est sur Wolinski qu'il est tombé. Et c'est Wolinski qui lui a dit « Ah, mais je ne savais pas que tu dessinais et tout. Ton père m'en a jamais parlé. Je trouve ça étonnant. Non, mais je vais t'en prendre, pas de problème. » Et ensuite, Wolinski est allé voir GB et lui a dit « Mais tu ne m'as jamais dit que Pascal dessinait. Donc moi, je vais l'imprimer, je vais l'éditer. » Donc c'était assez drôle quand même.
Oui, c'est sûr qu'on a vu quelques BD.
On a mené au téléphone. Ouais. Jean-Christophe ?
Je suis là.
Vas-y, parle-nous de Pascal, s'il te plaît.
Mais où es-tu dans la table ?
Alors, je ne sais pas si on m'entend bien.
On t'entend très bien, on est avec toi.
Bon, bah, écoutez, vous avez déjà parlé de Pascal, je n'ai pas entendu le début de l'émission. Que dire ? Moi, le mot qui me vient à l'esprit pour Pascal, c'est chaman. Je crois que c'est l'être le plus chamanique que j'ai jamais rencontré. Il m'a toujours semblé, en phase avec les éléments, les animaux, la nature, telle que j'ai rarement rencontré quelqu'un. Surtout évidemment quand on allait le visiter dans ses bois où il était isolé, c'était une sorte d'ermite pour moi. Il était en phase avec les éléments, et puis il profitait de cette relation privilégiée avec la nature pour développer quelque chose de tellement particulier, cette poésie qui appartient qu'à lui, et aussi ses extrapolations sur l'art pariétal, les intuitions qu'il a eues à ce sujet, qui lui ont valu l'intérêt des scientifiques, alors qu'il est complètement autodidacte, il a juste eu des intuitions. Et puis c'est, je crois que c'était ça. La mission parmi nous, c'était d'avoir des intuitions. Et ces bandes dessinées, les premières que j'ai vues, j'étais vraiment déboussolé. J'avais du mal à intégrer son univers. C'était très attirant. Les premières que j'ai vues, c'était quand il faisait beaucoup de choses en couleur, dans les revues de Pajac, Culte par exemple. Et je trouvais ça super beau et tellement bizarre. Tellement bizarre, ces histoires de poissons, de mulots. Il y avait un côté ésotérique, comment dire, ésotérique, innocent, tellement bienveillant, tellement magique, que ça donnait vraiment envie d'en savoir plus et de le rencontrer. Et je l'avais déjà rencontré, en fait. La première fois que j'ai vu Pascal, c'était à l'époque du Psychopathe, quand Carali avait brièvement fait une coédition du Psychopathe avec le professeur Choron. Il avait des bureaux 10 rue des Trois Portes, et donc Harakiri existait encore, c'était sur la fin. Et donc j'ai eu la chance d'y traîner un peu et de tous les voir. Et une fois, je me souviens d'avoir déjeuné avec Carali qui a amené Pascal, et donc on a fait connaissance, je crois, avant que je découvre son travail. C'est le moment où il bossait sur les romans photos, je crois, pour le mensuel. Et puis après, on s'est revus souvent, on est devenus amis. L'association lui a fait un petit livre qui s'appelait Période Mulot, qui était très chouette. Et puis, quand GB a disparu, j'ai beaucoup vu Pascal pour continuer à éditer les œuvres de GB. J'ai bien connu Nicole aussi, et c'était toujours un grand plaisir d'aller par là-bas. Que dire de plus? Je suis content de l'avoir rencontré, vraiment. Vraiment. GB aussi, bien sûr. Même si je sais que Pascal n'aimait pas être assimilé systématiquement à son père. Il y a quand même une transmission de génie et de poésie, quelque part, qu'on ne peut pas ignorer non plus.
Écoute, merci à toi. C'est très touchant. Merci beaucoup à toi.
Oui, et moi, je voulais ajouter que Pascal, il avait parfois le verbe critique assez dur aussi à l'égard de son père, mais ça c'était plus lié, je pense, à des histoires de famille. Il n'était pas critique à proprement parler, enfin disons pas une critique négative de l'œuvre de son père, il était quand même admiratif de l'œuvre de son père, et son père admirait aussi l'œuvre de Pascal. Et d'ailleurs chez Pascal, il y avait peu, dans mon souvenir, d'œuvres de ou pas d'œuvres de GB visibles, à part peut-être quelques livres, mais en revanche, chez GB, l'atelier de GB, la maison de GB dans son entier était complètement habitée par les œuvres de Pascal. Il y avait de ses totems presque partout, donc il y avait comme ça... Et même s'il était critique à l'égard de son père, ils ont été très amis, ils ont eu aussi une relation amicale, notamment à l'époque où GB travaillait à l'IDU International et où Pascal y travaillait aussi.
Est-ce que c'était lui, en fait? C'était Pascal qui dirigeait les dessinateurs?
Non, c'était GB. GB dirigeait les dessinateurs à l'IDU.
Pascal.
Pascal dessinait à l'IDU, où il y avait aussi...
Comme Schlingo,
comme Placide, Captain Caverne, Topor, Pajac. Et c'est là d'ailleurs, c'est au sein de l'IDU International qu'il a rencontré Pajac. Et que les amis et GB et Pascal ont à deux longtemps fréquenté l'appartement de Pascal dans le 14e, où ils ont passé des soirées assez nombreuses ensemble dans l'appartement de Frédéric Pajac.
Oui, et à la fin des bouclages. C'était une époque à l'IDU International, dans les années 90, où rien ne se faisait par réseau internet, par mail et tout ça, ça n'était pas encore en fonction. Donc il fallait faire, pour boucler un journal, il fallait être sur place et que ça puisse être, que les dessins puissent être photographiés en cliché, intègre à une photogravure pour partir chez l'imprimeur et tout ça se faisait de la main à la main entre les dessinateurs et les fabricants du journal. Donc il fallait que tout le monde soit sur place au moment du bouclage du journal, surtout pour un rythme hebdomadaire et pour un journal qui parle de l'actualité comme l'était l'IDU. L'IDU International, qui parlait quand même d'actualité. D'ailleurs, c'est amusant, Pascal se prêtait à un exercice de style. Il fallait qu'avec son univers de Mulot et de tout l'univers qui était le sien, qu'il puisse évoquer l'actualité de la première guerre du Golfe ou des choses comme ça. Il n'était pas, c'était pas vraiment forcément ce qu'il aurait raconté lui-même. Enfin, c'est comme ça. C'est comme un travail de commande d'être de coller à la ligne d'un journal qui commente l'actualité.
D'ailleurs, c'est assez marrant là, ce que tu dis d'adapter ses mulots à l'actualité, parce qu'il a aussi fait ça pour des journaux informatiques, par exemple, spécialisés en informatique, où c'était aussi des mulots qui discutaient avec des ordinateurs et tout ça. Donc, ce serait marrant d'imaginer un livre des mulots dans la presse, ou comme ça, où les mulots investissent tout un tas de journaux.
Le terme attribué à Chirac pour parler de la souris d'un ordinateur, le mulot.
Pardon, je t'ai interrompu.
C'est bon.
Ça me faisait penser à ça. Il a aussi dessiné dans l'autre journal de Guillaume Butel, où il y avait
Michel
Butel. J'ai dit
Guillaume.
Ah oui, c'est son fils, pardon.
Ah. Était au collège. C'est l'histoire de père et de fils. Vous étiez au collège ensemble, oui. Ok.
Tu as un fils de.
Oui, et donc Butel publiait l'autre journal, et Pascal a dessiné pour différentes rubriques de ce journal, mais il a notamment publié dans les pages de l'autre journal des fragments d'un exercice quotidien qu'il faisait, qui s'appelait « Mon bon café le matin ».
Ouais.
Et ça, c'est assez mythique aussi chez Pascal.
J'ai pensé à Pascal ce matin, comme très souvent quand je bois du café, ce truc de mon bon café le matin, c'est un truc qui est resté. Du coup, ça fait que. Oui, je pense souvent à Pascal en buvant le café, en pensant à cette phrase et en voyant tout de suite ces images. C'est vrai. Cette série, c'est. Oui, mon bon café le matin, qui est une émanation de. Il y a des choses qui reviennent chez Pascal, cette locution, une phrase qui dit « rien ne se perd », qui a été le titre de petits journaux qu'il a fabriqués en photocopie d'une manière très modeste, et parallèlement qui était le titre de pages qui ont pu paraître dans des journaux comme l'autre journal ou comme les journaux de page édités par Pajac qu'on évoquait tout à l'heure comme Globe et tout ça qui ensuite ont été à nouveau le titre de la dernière série de zine qu'il a fabriqué un peu plus ambitieux qui était la série de Rien ne se perd. Voilà, c'est resté longtemps ce truc Rien ne se perd. Il y avait une constance avec laquelle on pouvait retrouver Pascal dans les mots utilisés, dans le style dans l'univers, dans le style graphique évidemment, et en effet mon bon café le matin.
On va écouter un petit témoignage de Museau que Museau m'a envoyé hier soir.
Je pense souvent à Pascal. Je pense à Pascal, en fait, à chaque fois que je vois une araignée. Ça remonte à une conversation qu'on avait eue il y a déjà plusieurs années. Je lui avais expliqué, je lui avais raconté que je trouvais régulièrement des araignées dans ma baignoire et que pour leur rendre service, je faisais couler un peu d'eau et je les renvoyais dans le tuyau d'où je supposais qu'elles venaient, quoi. Et ben, je supposais qu'elle venait de là, parce que comme j'envoyais ni sur les plafonds ni sur les murs, pour moi elle venait forcément, elle venait de la baignoire, quoi. Et là, quand je lui avais raconté ça, il avait été très choqué, enfin très choqué, n'exagérons pas, enfin il avait été assez choqué quand même, et il m'avait dit « non mais tu crois quand même pas que les araignées vivent dans les tuyaux des baignoires ?» Et là il m'avait expliqué qu'elles se retrouvaient là parce qu'elles étaient attirées par la blancheur de l'émail de la baignoire, et qu'une fois, une fois qu'elles étaient au fond de la baignoire, c'était trop lisse, elles pouvaient plus remonter, quoi. Et donc là, il m'a dit, quand tu fais ça, tu les tues. Et pour lui, c'était quand même pas bien du tout de tuer les araignées. Pour moi non plus, c'est pas bien. Donc voilà. Et de ce jour-là, j'ai arrêté de le faire. Et de ce jour-là, je pense à Pascal à chaque fois que je vois une araignée, mais pas forcément dans la baignoire, dans la maison, dans un jardin. Je pense à lui, et grâce à lui, c'est vrai que beaucoup d'araignées ont été sauvées d'une mort atroce, d'une noyade dans un tuyau de baignoire. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense à Pascal à chaque fois que je vois une araignée, quoi. Voilà. Salut Pascal.
Aligre FM 93.1.
Et donc nous sommes sur Aligre FM 93.1 et nous rendons hommage à Pascal Blondeau. Et il nous manque Daniel Marin qui devrait appeler. Est-ce qu'il ne répond pas au téléphone, Daniel Marin? Non, ben on n'aura pas Daniel Marin. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait dit, Daniel Malrin, si on l'avait eu au téléphone, Alex?
Ouais, on va parler pour Daniel Malrin, c'est une bonne idée.
Parle pour Daniel Malrin, s'il te plaît.
Ça serait très difficile. D'abord, je pense qu'il raconterait comment il a connu Pascal, mais il l'a publié. Il y a une très belle couverture de Pascal pour la petite collection du Dernier Terrain Vague, là, pour les petits livres. Oui, la première phrase. Ah oui, un compact. Voilà. T'en avais fait un compact aussi.
Oui. De ça, mais là, en l'occurrence, Pascal était l'illustrateur d'une jaquette, d'une jaquette très très grande, d'un compact livre qui se dépliait sur les. Mais qui faisait un objet très original et qui était très adapté à l'imbrication des univers les uns dans les autres. Parce que Pascal, en dehors de ses sujets des mulots et tout ça, il avait un art de l'encadrement, de l'ornement où les cadres s'intégraient dans d'autres cadres et ressortaient par un autre bout, enfin, c'est-à-dire d'imbriquer tout ça. Et là, en l'occurrence, il avait dessiné pour le compact livre du DTV plein d'éléments imbriqués les uns dans les autres, d'une manière très simple en plus, c'est pas d'une manière qui épate les gens du genre comme ferait Escher ou je sais pas quoi, c'est une manière très simple de le faire, qui était simple à comprendre et simple c'est simple de rentrer dedans pour le lecteur de ses dessins en général.
Je vois tout à fait de quoi tu parles par rapport à son style. Et d'ailleurs, j'ai pensé parce que c'est difficile, c'est idiot de comparer les artistes, mais disons que s'il y a une œuvre que je trouve avoir des cousinages avec celle de Pascal, tu parlais d'Olivia Clavel, c'est vrai. Je pensais à Herriman et Crazy Cat aussi pour ces sortes d'univers presque de lunaire ou d'une planète cosmique comme ça avec
très,
tes animaux.
Très bel rapport, ouais, très belle idée, ce Crazy Cat. Donc vraiment le début des trois cases dans les journaux, le côté primitif en fait. Donc on a quelque chose d'assez cohérent. On aurait quelqu'un qui recherche le primitivisme d'une approche BD indépendante. On a encore un témoignage à écouter. Alex Baumann, photographe, c'est Alex.
Arnaud
Baumann, merci, je me disais bien, je disais
Alex,
des conneries.
Non, c'est Axel, son fils. Arrêtez,
bande de fils à papa. Arnaud Baumann, nous t'écoutons.
Mon cher Pascal, tu nous as quittés dans la solitude de ton isolement volontaire. Depuis plus de 2 ans, depuis l'épidémie de Covid, tu refusais tout contact physique, même avec tes amis les plus proches. Nous pouvions seulement t'appeler au téléphone, de préférence en pleine nuit. Depuis des années, tapis dans ta maison refuge d'animaux divers, couleuvres, corneilles et autres volatiles, tu t'endormais systématiquement au moment où le jour se lève. Nous pouvions parfois passer des heures à discuter de tous les sujets de société sur lesquels tu étais imbattable, informé des manœuvres politiques autant que des meilleures séries ou des dernières avancées scientifiques. Tu suivais de près les informations sur le Covid et ta santé fragile te faisait prendre toutes les précautions pour ne pas l'attraper. Plus de 2 ans de solitude ne t'ont donc pas empêché d'être le Pascal que nous étions nombreux à apprécier. Il fut un temps où nous te présentions à une nouvelle rencontre comme étant Pascal, le fils de Gébé. Avions-nous besoin de justifier notre estime à la mesure de celle que nous portions à ton père, le plus poète des génies d'Arakiri? Au fil du temps, ce ne fut plus nécessaire parce que tu étais devenu Pascal, au prénom de savant philosophe, le Pascal de « Rien ne se perd », la revue que tu produisais avec soin et consacré à l'œuvre de tes amis artistes sans jamais chercher à en tirer profit. Le Pascal, l'auteur discret et méconnu, dont les dessins et les écrits sont d'une grande richesse graphique et poétique. Tu es donc parti sans avoir été rattrapé par le Covid, ni vacciné, mais de plus en plus seul et éloigné de tes amis. Était-ce un choix imposé par l'épidémie, ou bien celui d'en finir avec la vie sans que personne ne puisse te trouver amaigri ou vieilli? Sur les derniers mois, on peut se poser la question. Tu te savais malade, mais tu refusais de voir les médecins. Sans être suicidaire ni désirer mourir, tu as peut-être choisi d'en finir ainsi. Tu n'as eu besoin de personne pour appeler les pompiers le jour où tu as senti que la lutte pour la survie devait s'arrêter là. J'entends une corneille à l'instant, comme un signe. Il était devenu impossible de te parler. Tu étais trop faible et nous avons su que tu refusais les visites. Tu nous avais dit déjà adieu à ta façon. Alors, salut mon ami, tu vas me manquer.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je pense souvent à Pascal. Je pense à Pascal.
Merci pour la corneille, bel exercice chamanique. Et comme nous approchons la fin de l'émission, je voudrais remercier Enrico Mastro Giovanni, qui est de l'autre côté de la vitre, et m'excuser pour la mauvaise qualité sonore de toutes ces choses qu'on a reçues, qui étaient vraiment... ils ont fait exprès de parler dans le vent, il y a des coups dedans et tout.
Non, c'est Pascal qui a recouvert.
Ils ont fait du sabotage, surtout, Enrico, excuse-nous, tu as dû souffrir.
Quand Arnaud a été trop sérieux, la corneille est parlée au nom de Pascal pour dire « Mais non, arrête, je suis là, quoi, c'est bon, tu veux me parler, je te réponds. Hein. »
Ah ouais. Le lieu où habitait Pascal dans la forêt, le lieu dit avait un nom, ça s'appelait le nid de Corbin. Oui. Donc la racine Corbin, Corbeau, Corneille, voilà.
Et la carte postale qu'il a sortie de lui de profil avec la corneille est absolument magnifique. Et, c'est vrai que s'il y a quelque chose de magique dans dans cette idée de l'esprit, quoi, de ces mythes chamaniques, justement, si j'ai bien compris, on représente un animal en général quand on est chaman.
On en parlait, mais dire de Pascal que c'était un chaman, je pense que ça l'aurait agacé en vrai.
Vas-y, dis-le. Et il n'aimait pas non plus qu'on dise qu'il s'était retiré dans la forêt. Dis-le,
non, il n'aimait pas qu'on le traite d'homme des bois, exilé, isolé. Ça l'agaçait parce que déjà, c'est des images toutes faites, qu'il n'était absolument pas comme ça. C'était quelqu'un de très sociable, justement. Il n'était qu'à 60 km de Paris, il n'était pas non plus...
Qu'est-ce qu'il aurait aimé qu'on dise?
Il aurait aimé qu'on dise que c'était quelqu'un qui était très proche de la nature, qu'il avait un amour fou de la nature, qu'il avait essayé de la comprendre... Et surtout de comprendre ce que les gens ne comprennent pas, qui sont les animaux, et l'intelligence animale, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il a eu des rapports privilégiés avec Grendel, parce qu'il savait que les corbeaux étaient des êtres très, très intelligents. Donc maintenant, les gens commencent à le savoir parce qu'on en a parlé à la télé, voilà. Mais c'est parce qu'on passe à côté de toutes ces choses, finalement. Donc pour lui, l'important, c'était ça, finalement. C'était ne pas passer à côté de ça, puisqu'on vit avec. Donc c'est un peu ce que disait Museau, c'est on ne tue pas les araignées. C'est aussi bête que ça.
Est-ce qu'il avait un côté militant pro-hachiche qui était important
non,
dans sa vie?
Non, il me soutenait. Voilà, il me soutenait parce
Par la pratique.
Par la pratique et aussi parce qu'il m'a soutenue dans mes actions... quand, par exemple, j'ai eu besoin d'aide pour l'association dont je m'occupe, il m'a aidé à créer un collectif d'artistes en allant chercher les copains, les gens qu'il connaissait. Il m'a ouvert des portes. Et non, il m'a toujours soutenue par rapport à ça, bien sûr, depuis le début.
Et donc, moi, je trouvais formidable les 12 exemplaires, les 12 Rien ne se perd, là. Je trouvais que c'était un très beau boulot, vraiment parfait. Enfin, pour moi, c'était... Un objet tel que je les aime, incritiquable.
Ouais. Ouais. Enfin, le numéro 1 de Rien ne se perd, c'est des œuvres de Pascal mises en page par lui, une série. Et ensuite, le numéro 2 au numéro 12, eh bien, à chaque fois, un auteur différent qu'il a, il a pris le temps d'aller voir les gens, de fouiller dans les.
Catherine
dans,
Dard, par dans, exemple, voilà. Il l'a ressorti.
Et Pascal a fait le choix avec l'auteur, a pris le temps ensuite de mettre en page. Enfin, je veux dire, c'est des œuvres vraiment éditées par Pascal. Donc, c'est un travail d'éditeur aussi, en plus d'être.
Olivia Clavel, Captain Caverne, Pion, Catherine Dard, Jocelyn. Placide.
Placide, bien sûr.
Museau.
Menu.
Menu.
Kiki Picasso.
Kiki Picasso.
Oui.
Joko.
Joko.
Joko. On a 13 en fait.
Joko est mort, c'est celui qui est mort.
Non, non.
C'est lequel qui est mort? Il y en a un qui est mort.
Non, il y en a un qui est ressuscité qui s'appelle Y5P5, mais lui il n'a pas, pas été. Donc il a ressuscité, dis-je. De toute façon, c'est le mort vivant. Mais non, 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 mais oui, malheureusement, Jocelyn Richard. Jocelyn, qui a été édité par Pascal, est décédé depuis. Depuis peu de temps après.
La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit il est mort, mais c'était avant le Covid. Donc c'était en montant l'air, je pense, la dernière fois que j'ai vu.
Il est sorti, pas le France d'Or.
Oui, il est sorti.
C'est juste.
Mais voilà, comme je disais, Rien ne se perd. Voilà, ce titre est une réutilisation de zines photocopiées que Pascal avait produit auparavant aussi pour lui. Donc c'est un vieux titre. Enfin, c'est un vieux titre. C'est un titre qui accompagne Pascal, qu'il a apprécié jusqu'au bout, puisque le Rien ne se perd. Ce truc, cette espèce de petit clin d'œil, cette phrase de Lavoisier qui est une phrase qui ne correspond pas à une vérité scientifique, d'après ce que j'en sais.
Et Pascal aussi, il faisait de la musique, un peu de musique expérimentale. Il a enregistré, je me souviens que la première fois que j'étais allé chez lui, enfin non, alors c'était pas encore dans les bois, il habitait un moment à Boigny, enfin je sais plus comment s'appelle ce bled, enfin le lieu dit de c'est Boigny en Seine-et-Marne ou dans l'Essonne, je sais plus. Et là il y avait plein d'enregistreurs avec des bandes qui couraient d'un appareil d'enregistrement à l'autre, c'était une espèce de cabinet de savant fou. Et ça, c'était assez curieux. Et donc, il faisait des boucles comme ça, qu'il enregistrait lui-même avec des guitares ou même ses totems parfois pouvaient produire des sons. Soit des sons, d'ailleurs, des sons qu'il enregistrait lui et qui étaient diffusés par une cassette intégrée au totem. Et puis, il avait aussi fait des instruments à cordes qu'on pouvait pincer ou des choses comme ça. Attends, j'ai pas fini. Et un jour, j'avais amené Gilles Torgeman, qui travaillait un moment pour nous chez Artnet, chez Pascal, et qui était venu avec sa guitare. Gilles avait un peu joué avec Pascal chez lui. Puis après, il y était retourné avec sa compagne Anne Frémy et Bertrand Belin, le chanteur. Et puis, ils s'étaient fait un trip tous dans les bois chez Pascal, assez... C'est sympa, faudrait qu'il raconte.
Excuse-moi, mais on va être coupé. Je ne peux rien faire. On passe l'antenne à cause commune. C'est la loi, il est midi. Vous étiez super. Merci d'être venu. C'est la loi de cause commune qui prend nos places. Merci à vous et à la prochaine.
Aligre FM 93.1.
Mais bien sûr, monsieur.